Bonjour à tous et à toutes et bonne année. Aujourd'hui, je serai en compagnie de Morren.
Salut, bonne année à tous.
D'ATH.
Bonjour et bonne année.
Et de Pixel, qui n'a toujours pas reçu de clé d'Escape from Tarkov de la part du Père Noël. Salut Pixel.
Ouais, mais moi au moins je bois pas de Mojito.
Ah, ça y est, ça fait des coups bas comme ça, hein. Ça,
voilà,
ça envoie les...
Moi, monsieur, je fais de l'art moderne. Voilà. Je fais de l'art moderne.
Moi, je vous confie des choses, je vous confie mon intimité en privé et vous balancez ça en public. Bravo, messieurs, bravo. Non, mais je ne vous félicite pas. Allez, au sommaire de l'actualité cette semaine, on vous parlera de la curation sur GOG. On en enchaînera ensuite sur Fallout New Vegas. On parlera de Iron Harvest, de Monster Hunter World sur PC. Nous évoquerons également Star Wars Battlefront 2, celui de 2005, hein, pas le nouveau, on en a déjà assez parlé comme ça, n'est-ce pas?
Ah bon, il y a un jeu Battlefront qui est sorti récemment? Je suis pas au courant.
On préfère tous l'oublier en fait. Voilà.
Ouais. Jamais entendu parler.
Et on terminera sur un jeu qui fait froid dans le dos, c'est Homeland Security, enfin un jeu. Est-ce qu'on peut appeler ça un jeu? Je ne sais pas. On évoquera ça tout à l'heure. Voilà. Sans oublier notre jeu du moment, parce que ça sera le gros morceau de la semaine, où y avaient joué tous les deux, Mandren et ATH, c'est Assassin's Creed Origins. Le dernier épisode de la franchise que tout le monde attendait au tournant, parce que bon, on sait tous que c'est une série, n'est-ce pas, qui a pas mal déçu, donc... On va savoir, enfin, l'avis de la rédaction, n'est-ce pas? La rédaction de Game Info, en particulier celui d'un certain ATH, qui l'attendait avec la tronçonneuse, voilà. Allez, on va commencer, messieurs, avec mon coup de gueule de la semaine. Mon coup de gueule de la semaine, c'est celui sur la curation sur GOG. Alors, GOG, je vous aime bien, hein. J'ai dit plusieurs fois à quel point j'appréciais que vous fassiez du DRM free, et même votre politique de curation, le fait que vous ayez des choix éditoriaux, etc., j'aime bien ça. Mais des fois quand même, il y a des trucs qui sont assez incompréhensibles chez vous. Notamment, je vais prendre l'exemple du dernier Zachtronix. Alors Zachtronix, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un développeur qui est célèbre pour ses, on peut appeler ça des puzzle games je pense, Shenzhen.io, Magnum Opus qui est sorti récemment, où en gros c'est des jeux où c'est, vous savez, des lignes d'assemblage en fait. Il y a des énigmes par rapport à ça et l'objectif c'est de résoudre l'énigme en faisant ta ligne d'assemblage à toi bien obsi et tout. Bref, c'est des jeux qui sont super bien finis. Alors certes, qui ont une interface, on va dire, comment, minimaliste, mais c'est des jeux qui sont super cool. D'ailleurs, le dernier a quand même réussi, je crois, à avoir un score de 96% de reviews positives sur Steam, avec beaucoup de reviews, hein. Pas genre 5 reviews, hein. Genre beaucoup, beaucoup, beaucoup de reviews. Et donc, c'est un jeu qui a très bien marché dans son genre sur Steam. En tout cas, qui a eu d'excellentes critiques. Alors, certes, c'est pas des jeux qui se vendent par milliers. Encore que 50 000 exemplaires pour un jeu indé, je trouve ça pas si mal, hein. C'est aux alentours de ça que ça se vend, en général. Voire un peu plus. Donc, Zachtronix, tous leurs jeux jusqu'à maintenant ont été acceptés sur GOG. Et là, il y a donc Magnum Opus qui est sorti, qui est un excellent jeu, qui, de l'avis de beaucoup, est le meilleur jeu de Zachtronix, que j'ai acheté d'ailleurs et que personnellement j'ai énormément apprécié. Sauf que quand je l'ai acheté, moi j'ai voulu aller sur mon compte GOG parce que après tout, les autres jeux de Zachtronix y étaient, donc pourquoi pas celui-là? Et j'ai constaté, à ma grande surprise, qu'il n'y était pas. Donc je suis allé sur le Twitter de Zachtronix pour voir ce qu'il en était, et donc je suis tombé sur ce post Twitter que j'ai retweeté sur mon compte et que je vous mettrai dans les commentaires de l'émission, où l'auteur poste la réponse que lui a envoyée GOG, qui a refusé de publier le jeu. Et en gros, il leur a demandé, bah, expliquez-moi, pourquoi est-ce que je ne peux pas publier mon jeu chez vous? C'est quoi le problème? Alors en gros, je vous laisserai regarder le post, mais ça peut se résumer par parce que...
C'est ça, because reasons.
C'est un peu comme quand tu poses une question à un homme politique et qu'il a pas envie d'y répondre, tu vois,
ouais.
Et qui va te faire une circonvolution pas possible pour ne pas répondre, en fait. Et ça, à mon sens, c'est un gros problème, parce que tu aies une politique éditoriale, très bien. Mais à un moment donné, mettez-vous dans les pompes d'un développeur. Si GOG était... comment dire, un magasin plus important qu'il ne l'est aujourd'hui, parce que, soyons très honnêtes, GOG, c'est une goutte d'eau dans un océan par rapport à Steam. Jusqu'à maintenant, tous tes jeux ont été publiés chez GOG, et là, d'un seul coup, on décide de refuser ton dernier jeu, et tu sais pas pourquoi. Est-ce que vous imaginez un peu le problème que ça pose d'un point de vue business model? C'est-à-dire que, on va dire que le curateur qui fait le tri des jeux, s'il te lève du pied gauche, il peut refuser ton jeu, c'est comme ça sur GOG? Alors, j'ai lu des gens qui essayent de défendre cette politique-là. Certes, je suis d'accord pour dire que c'est un problème d'avoir un laisser-aller comme Steam, mais c'est également un problème d'avoir une politique de curation qui est floue. C'est le minimum, quand tu fais de la curation, de donner la raison, une raison objective, pourquoi tu as refusé ce jeu. Je suis désolé, la curation, ce n'est pas « Fou, non, ce jeu il me plaît pas trop, donc du coup, en me basant sur mon humeur du jour, je refuse. »
Ouais, je suis super d'accord avec toi. Il faut qu'il y ait une des critères qui soient assez stricts et bien expliqués pour que, quand le curateur humain change, ça soit la même réponse qui sorte, en fait.
C'est ça.
Que ça soit Michel qui fasse la curation mardi, ou que ça soit Sylvie qui fasse le mercredi, il se réfère à une espèce de liste très détaillée de points qui, oui ou non, disent si le jeu qu'ils sont en train de regarder a le droit d'apparaître sur le store de GOG. Mais tu peux pas dire à quelqu'un, surtout en plus quand il te demande une réaction officielle et que tu sais qu'il va être partagé, tu peux pas dire « Ouais, ben parce que, en fait, mais on va pas t'expliquer. » Ça, c'est juste une espèce d'obscurantisme, d'omerta sur comment on fait, parce qu'en fait, s'ils ont rien à te dire, c'est que, finalement, le process, il est peut-être pas vraiment gravé dans le marbre, en fait. Et ça, ouais, c'est ça, ça. C'est pas acceptable.
Mais, enfin, du coup, t'as plus envie de travailler avec GOG, quoi.
Ouais, c'est ça.
Enfin, les mecs, ils te disent même pas pourquoi.
Tu comptes pas sur eux, en tout cas, quoi. C'est, peut-être, si on arrive à faire passer sur GOG, voilà. Si on fait le bon jet de dés, peut-être que ça passe.
Ouais, mais c'est comme si, je sais pas, tu rentrais, tu voulais aller en boîte de nuit, le mec, il te dit non. Enfin, même pas, il te donne même pas la raison, quoi. Enfin, t'as même pas un prétexte.
T'as pas la tenue réglementaire, c'est bon.
Et encore, je pourrais comprendre si ça serait un jeu, tu sais, par exemple, fait par des extrémistes, etc., où il y aurait des contenus, pas politiquement corrects, tu vois. Mais là, enfin, c'est un puzzle game, quoi.
Bon, écoute, je pense qu'on n'a rien à ajouter là-dessus. Pixel, on va enchaîner?
Alors, est-ce que vous êtes fan de Fallout New Vegas?
Bon, ça ne sera un secret pour personne ici que je suis un putain de fanboy de Fallout New Vegas. Voilà, c'est le meilleur jeu de l'univers.
Alors moi, j'y ai très peu joué pour te donner un avis sur Fallout New Vegas, mais du peu que j'y ai pu jouer, c'était mieux que Fallout 3 déjà.
Exactement. Et Mordrain?
Moi, j'ai pas joué à... j'ai joué à aucun Fallout, en fait, pour être tout à fait honnête.
D'accord.
Ok. Donc, Fallout New Vegas, c'est certainement l'un des meilleurs Fallout jamais créés, je le dis, hein. C'est moi qui le dis, d'accord? C'est moi qui le dis.
Non, non, mais tu as le tir en silence approuval.
Voilà, de la rédaction de Game Info, premier sur l'info, n'est-ce pas?
Ouais, c'est ça.
Mais bon, il y a un problème avec Fallout New Vegas, c'est qu'il est vieux.
Et déjà, à l'époque, il avait une sale gueule, hein, soyons très honnêtes.
Voilà, quand il est sorti, il avait déjà une sale gueule, et malgré tous les patchs HD faits par les fans pour mettre des textures en HD, ça reste toujours vieux, ça reste toujours moche. Alors, il y a des fans qui se sont dit, eh ben, on va prendre le moteur de Fallout 4 et puis on va recréer Fallout New Vegas dedans.
Tu veux dire que Fallout 4 va enfin être utile à quelque chose?
Voilà, exactement.
Oui, non, ça, c'est mon petit trollonné, Fallout 4.
Voilà, voilà. Le développement a commencé depuis un moment. Il existe une vidéo avec du gameplay. Rien que pour le coup de force, ça mérite qu'on s'y intéresse.
Bah, surtout que pour le coup, comment dire... Pour les gens qui ont acheté Fallout 4 et ont été déçus par le jeu, au moins ils pourront se rattraper avec un excellent jeu pour peu qu'ils arrivent à retranscrire Fallout New Vegas dedans, ce qui n'est quand même pas mince à faire, que ce soit d'un point de vue level design, etc. Puis même la masse de travail à faire, c'est impressionnant, hein, donc bon courage à eux, quoi.
Voilà, le projet est toujours pas terminé, il sera peut-être jamais terminé vu que c'est un projet amateur non rémunéré. Mais si ça sort un jour, on vous en reparlera, puis on l'essayera, on dira si c'est bien ou pas, on verra ça. Mais il existe une vidéo, on va vous mettre le lien.
Mais en tout cas, hein, encore une fois, la communauté du modding, bravo, je suis toujours impressionné. Voilà. Allez, je vous propose qu'on enchaîne, Morren, et on va parler de Iron Harvest, un RTS qui a l'air bien.
Ouais, un RTS tactique, pour être tout à fait précis. C'est un petit peu du Company of Heroes, mythe du steampunk, avec une belle petite infusion de mecha design et la volonté de pousser le moteur de destruction du paysage et des couvertures, parce qu'on sait que les RTS tactiques, c'est très 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 basé là-dessus. Le fait de trouver des couvertures un petit peu partout sur la map. Et là, en fait, virtuellement tout est destructible sur la carte d'une partie d'Iron Harvest. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que en se détruisant, les bâtiments, du coup, enfin les débris, vont pouvoir créer de nouvelles couvertures disponibles. Et du coup, en fait, ça va totalement changer le gameplay et puis la surface tactique que vous pourrez récupérer. Et du coup, ça a l'air vraiment cool, assez ambitieux. On sait que le jeu est prévu pour sortir courant 2018, sans plus de précision. On a vu une vidéo pré-alpha qui montre justement comment ça fonctionne, cette histoire de couverture destructible et du coup reconstructible. Et ça a l'air plutôt cool. Qu'est-ce que t'en penses, toi ?
Alors déjà, en plus, il y a la direction artistique qui est complètement folle, je trouve.
Ouais.
C'est fait par Jakub Rosalski. Alors je charcute son nom. Il a travaillé notamment sur des jeux de plateau. Je sais plus comment il s'appelle ce jeu de plateau là qui avait un peu cette gueule là aussi. En tout cas, ça donne déjà une identité artistique, ce qui est important dans un RTS, je trouve. Ouais. Et puis ensuite, voilà. Enfin, tu me vends en gros, c'est du Company of Heroes avec un putain de moteur physique. Et là, tu me vends du rêve. Alors maintenant, il faudra voir ce que donne la campagne solo parce que. Si c'est pour faire du multi, alors ça m'intéresse, mais on va dire que c'est pas mon trip en ce moment. Moi, j'ai besoin d'un RTS solo, ça fait longtemps que j'attends ça. D'ailleurs, à propos de RTS, en ce moment, il y a DR Billions qui marche beaucoup, ça fait plaisir.
Ouais.
Donc j'espère que le succès de DR Billions en ce moment est annonciateur d'un succès pour Iron Harvest, parce que pour le coup, s'il est aussi bon qu'il a l'air prometteur, bah ça sera un très 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 bon jeu. Et toi, Morane
Franchement, très curieux. Ça fait longtemps que j'ai pas touché à RTS tactique. La dernière fois, ça devait être Dawn of War 3, mais c'était une présentation à la Paris Games Week. Donc c'est pour vous dire si vraiment ça fait super longtemps. Et du coup, franchement, ouais, ça peut m'intéresser. A priori, il y a une section campagne. Faut voir si elle sera, parce que moi, je suis pas très multijoueur sur les RTS. Faut voir si elle sera bien fournie ou pas. Et puis à ce moment-là, j'y jetterai un œil.
Voilà. Allez, on va enchaîner, mon cher Pixel, par une mauvaise nouvelle.
Ouais.
Et cette mauvaise nouvelle, elle a à voir avec la version PC de Monster Hunter World.
Ouais, elle devait sortir en même temps que la version console, ou légèrement après, en ce début d'année 2018. Et ben non, là, il y a une annonce qui est tombée officiellement. La version PC de Monster Hunter World ne sortira pas avant l'automne 2018.
Alors, précisons quand même qu'ils avaient bien dit que la version PC serait assez en retard, parce qu'ils avaient beaucoup de boulot dessus. Mais pour moi, beaucoup de boulot, c'était l'été. Oui. je m'imaginais pas qu'elle sortirait en automne. Et je sais pas pour toi, Pixel, mais personnellement, le problème, c'est que moi, je vous aime bien, Capcom, hein, mais en fait, je sais pas à quoi je jouerai en automne. Je sais pas ce que l'année nous réserve, donc peut-être que j'aurai autre chose à faire en automne, tout simplement. Et puis, tout simplement, le fait que d'ici là, comment dire,
on sera passé à autre chose.
Ouais, on sera passé à autre chose, ou peut-être tout simplement on en saura plus sur le jeu et que peut-être il aura certains défauts inhérents de la série qui sera pas si bien et du coup bon après tant mieux, hein, ça fera faire des économies, mais c'est, je trouve ça dommage, et ce d'autant plus qu'on était quatre personnes là ici à être assez chaud pour entamer un coop ensemble, et là, ben, écoute, entre ceux qui peut-être vont le prendre sur PS4 parce qu'ils auront pas la patience, je pense que ça sera peut-être le cas de Dwayne notamment, ou moi qui sais pas par exemple ce que je ferai en automne, quoi. C'est un peu moins d'un an, mais bon, voilà, super, quoi. Pixel, quelque chose à ajouter ou...
Eh bien, je dirais que c'est, selon mon avis personnel, bien sûr, qui n'engage pas la rédaction de Game Info premier sur l'info, n'est-ce pas ? C'est une manœuvre encore, on va dire, commerciale, marketing, de la part de Capcom.
Ah, tu penses, toi ?
Pour forcer les joueurs PC à acheter la version console.
Oh, mais ils ont quel intérêt, Pixel, à forcer les joueurs PC à... Ça change rien pour eux. En contraire.
Bah si, ça va faire gonfler leur chiffre d'affaires avant la
fin de l'année fiscale. Bah non, la version PC, au contraire, c'est des maths, ça rapporte beaucoup plus que la version console. Ça, sur là-dessus, je te suis pas, hein, personnellement.
Non, moi, je
ils ont aucun intérêt à vendre des boîtes, quoi.
Enfin, non, ils gonflent deux fois leur chiffre d'affaires, quoi, dans la même année.
Non, mais tout le monde sait que sur PC ça rapporte plus. C'est beaucoup moins chiant de publier ces jeux sur PC. Là, je suis pas d'accord.
Bah, va falloir peut-être le dire à Capcom alors.
Non, mais je pense que ce sont des Japonais, que comme tous les Japonais, ils ont du mal avec le PC, qu'ils veulent faire une sortie propre, mais que ils ont consacré tous leurs moyens à la version console d'abord, et que du coup ils se sont dit « Ah merde, il faut qu'on s'attaque à la version PC », qu'ils se sont rendus compte que finalement c'était un peu plus compliqué que ça, quoi.
Moi, j'ajouterais peut-être une espèce de confiance qu'ils ont acquis, en fait, avec la bêta sur console, qui fait qu'ils se disent que peut-être que sur la période qui est très concurrentielle de l'automne, ils ont peut-être une chance, du coup, de s'imposer sur PC.
Ouais, bah ça, à mon avis, ils se fourrent le doigt dans l'œil, mais...
Ouais, je suis pas certain non plus, mais... à voir.
Ok, on va parler de Star Wars Battlefront 2 ATH.
Alors, on va parler de Star Wars Battlefront 2, version 2005, qui était sortie à l'époque sur PC, GameCube, PS2, tout ça. Donc, c'est un Star Wars qui est quand même très ancien. Et en fait, ce nouveau Star Wars vient de profiter d'un patch multijoueur qui a été validé par Disney et qui a été créé par la communauté de modeurs de GOG, c'est bien ça?
C'est GOG directement qui a développé.
Ah ouais, encore mieux. Et donc, c'est un patch qui permet, en fait, d'avoir une nouvelle interface multijoueur, un nouveau lobby, de pouvoir se connecter, en plus de ça, avec le nom des utilisateurs Steam, qui permet aussi de calculer le ping encore plus précisément et corrige pas mal de bugs mineurs et optimise les performances globales du jeu. Donc, c'est quand même un jeu qui date de plus de 13 ans maintenant, avec parce qu'on est en 2018. Et ça fait plaisir de voir ça, surtout parce que c'était un jeu qui était très apprécié à l'époque pour son côté arcade, et puis on n'avait pas tout ce système de lootbox et toutes les et tout ce qui entoure la polémique de Star Wars Battlefront 2.
Ça fait plaisir, et surtout par rapport à la conservation du jeu vidéo. Il y a eu plusieurs nouvelles dans ce sens récemment. D'ailleurs, je tenais à remercier EKBD qui m'avait envoyé des infos en réaction du dernier podcast. Je crois que c'était les États-Unis qui envisageait de légiférer pour autoriser l'émulation des serveurs des jeux en ligne abandonnés, en fait, déjà. Et ensuite, il y avait une news aussi, je crois, sur Ubisoft, qui avait libéré le code pour les serveurs de World in Conflict. Ces derniers temps, il y a pas mal de news comme ça, où on voit que les gens commencent à s'emparer de la question de la conservation des jeux en ligne. Et bon, vous savez, c'est un petit sujet qui me tient à cœur, parce que ça fait partie du jeu vidéo et c'est important que ces jeux-là soient préservés. Et donc, encore une fois, pour le coup, contrairement à tout à l'heure, merci à GOG. Surtout qu'en plus, je veux dire qu'ils avaient aucune obligation de le faire. C'est une excellente nouvelle.
Mais par contre, ils n'ont pas donné de raison pourquoi ils avaient accepté de modder le jeu et non un autre jeu.
Après, c'est Star Wars, donc j'imagine que c'est quand même un gros jeu pour l'époque. Ils sont quand même spécialisés dans les vieux jeux, même si, je veux dire, entre-temps, ils ont changé d'optique. Mais le site, à la base, il s'appelle Good Old Games. Donc, bon,
c'était juste un petit troll par rapport au jeu qui a été refusé sur la plateforme.
Donc, ah
sans motif apparent, donc voilà. Enfin, après, je comprends que c'est quand même Star Wars. Et puis, pour l'époque, c'était juste ouf. Et le deuxième, il était encore meilleur que le premier. En plus, ça, comme c'était un jeu facile à prendre en main, vraiment, c'est-à-dire que n'importe qui pouvait y jouer. Les contrôles des véhicules étaient vraiment très arcades, mais ça n'empêchait pas d'avoir une profondeur de jeu sur comment étaient designées les maps. Il y avait plusieurs choses qui rentraient en ligne de compte. Et finalement, je comprends vraiment pourquoi GOG s'est attaché surtout à ce Battlefront 2, parce que à l'époque, c'était un peu le jeu Star Wars ultime. T'étais un peu sur un champ de bataille avec tout le monde. Tu pouvais prendre des vaisseaux, te balader autour de la map. Enfin, c'était vraiment... Je trouve qu'ils sont plus réussis que ceux d'aujourd'hui, mis à part le côté technique, quoi.
Ouais, d'ailleurs, je me rappelle que lors du test du premier Battlefront, il y avait pas mal d'éléments de gameplay que Marwan avait regretté qu'il soit absent de ce reboot de la série. Donc, c'est de la qualité, n'est-ce pas, Marwan? Tu me confirmes, bon Battlefront 2.
Ah ouais, c'est du très bon. Et puis, il y a toujours une communauté là-dessus. Donc, franchement, c'est que ça veut dire quelque chose, quoi.
Bah oui. Si des gens... continue à y jouer, et surtout si une boîte comme GOG se dit tiens, ça serait intéressant de remettre les serveurs en ligne à flot, c'est que voilà.
Ouais, et que Disney autorise alors qu'ils ont un nouveau jeu, enfin ça montre quand même qu'il y a quelque chose, il y a une passion derrière ce jeu, quoi.
Bon, Mandren, tu gardes la parole?
Oui.
On va parler d'un jeu sordide.
Oui.
Enfin,
je pense qu'on peut le dire, résumer par ça.
Un jeu, enfin, voilà quoi.
Ouais. Ça s'appelle Homeland Security. Aux États-Unis, en fait, c'est en gros le ministère de la Défense. Mmh. Et ils se sont dit, on a un problème avec les fusillades aux États-Unis. Ce problème, c'est qu'il y en a régulièrement et un quart des fusillades qui ont lieu dans des écoles. Alors, comment on va faire pour prendre ce problème et essayer de le résoudre?
Laisse-moi deviner, ils ont interdit les armes à feu?
Eh bien non, ça serait trop simple. Non, ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on va créer un jeu vidéo, un first person shooter, enfin un first person game du coup, qu'on va donner aux enseignants pour leur apprendre à comment se protéger eux-mêmes bien sûr et protéger leurs élèves en cas de tuerie dans leur école. Voilà.
Donc pour résumer, c'est un jeu avec un gameplay asymétrique. C'est-à-dire que vous avez d'un côté le tueur, qui est joué par un humain, et de l'autre, vous avez le professeur et les élèves, qui sont joués par des humains. Et le but, c'est de survivre. C'est beau, hein?
Chouette.
non, mais par contre, tu vois, j'apprécie quand même l'hypocrisie. C'est-à-dire que quand c'est un truc pour la sécurité comme ça, ça ne pose aucun problème moral, etc. Par contre, quand c'est Call of qui fait une fusillade dans un aéroport, ça fait une polémique pas possible, il faut interdire les jeux vidéo. Je sais pas, dans les deux cas, ça me paraît sordide personnellement, mais je suis pas si je suis le seul. enfin, après, comment dire, ça pose tout le temps, tu sais, la question du qu'est-ce qui est acceptable dans un jeu vidéo, qu'est-ce qui ne l'est pas. Bon, moi je pense qu'on peut tout faire dans un jeu vidéo, dans les limites de la loi, bien entendu. Après, tout c'est une question d'attention derrière. Et dans les deux cas, c'est ce qui me pose problème. C'est-à-dire que la scène de fusillade dans Call of, c'était juste une scène de provoque à deux balles pour faire de la polémique. On te met un événement traumatisant comme ça, sans véritablement penser derrière la chose. Pas comme un Spec Ops The Line, par exemple, qui te met dans des situations, si tu veux, moralement très ambiguës, on va dire. Et surtout des situations qui te font réfléchir sur ce que tu es en train de faire. Mmh. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que, en gros, il y a quand même une entreprise qui est en train de se faire de l'argent sur des tueries, sur un soi-disant jeu qui va prévenir ce genre de choses. Enfin, c'est moralement, en tout cas, ça me paraît très discutable. Voilà.
Moi, déjà, enfin, je considère pas ça vraiment comme un jeu vidéo parce qu'on est, enfin, un jeu vidéo, il y a quand même une notion de d'amusement, je vois plus comme un outil pédagogique destiné vraiment à l'éducation, quoi. Mais je pense que ça serait beaucoup plus efficace d'avoir ce type de logiciel avec des formations. Les enseignants, faut les mettre devant des situations concrètes. Mmh. Et encore, même dans une formation, t'es jamais vraiment en situation de stress. C'est pas pareil, tu sais très bien que c'est une formation, donc tu risques rien.
Non, mais est-ce qu'on peut vraiment être préparé à ce genre de choses?
Voilà, non, mais on peut pas être préparé, ouais. Mais au moins d'avoir, je sais pas, tu vois, c'est comme pour les alertes incendies. Les alertes incendies, vous savez, ils disent très bien que quand il y a un incendie, il faut rester calme, sortir deux par deux en se tenant la main, en disant le monde est beau, quoi. Alors que tu sais très bien que, enfin, s'il y a un feu dans un immeuble, tout le monde va courir et, enfin, sauf qui peut, quoi.
Sauf au Japon.
Après, c'est pas pareil. Mais vraiment, je pense pas que ça pourra vraiment aider les gens, mis à part ça, mais. Enfin, je préfère qu'ils utilisent ce système-là que, si tu veux, armer les professeurs en plus, quoi.
Ah non, mais peut-être qu'ils vont bientôt y réfléchir, hein, parce que quand ils verront que ça marche pas, il faudra bien trouver des solutions, hein.
Vrai, quand j'ai vu le titre, je me suis dit, oh putain, j'ai cru qu'en fait, le professeur, il allait jouer quelqu'un d'armé. Et je me suis dit, oh putain, par pitié, non.
Oui, mais il y a quand même quelqu'un qui joue la personne armée dans l'histoire. Enfin,
putain, sérieux.
C'est très très spécial.
C'est très bizarre.
Et encore une fois, je sais pas, moi, une solution très simple, t'interdis les armes à feu. Voilà.
Non, mais enfin, je sais pas, où tu protèges des lieux, enfin, j'en sais rien. Enfin, voilà. C'est un peu.
Alors, interdire les armes à feu, comment te dire que, bah non, parce qu'on va perdre beaucoup, 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 mais vraiment beaucoup. C'est pas, quand j'ai dit beaucoup, c'est pas genre quelques millions, c'est vraiment beaucoup, 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 beaucoup d'argent, tu vois.
Ouais, non, mais c'est vraiment un truc de ouf.
Voilà, bon, allez, on va passer à la suite. Hein. Encore une fois, je vois qu'on ne recule devant rien pour faire de l'argent, en fait, et exploiter la misère humaine, alors qu'on connaît depuis très longtemps la solution au problème. Tout va bien. Allez, messieurs, c'est terminé pour l'actualité cette semaine. On va passer à notre jeu du moment, et le jeu du moment, c'est la dernière production d'Ubisoft. Ça s'appelle Assassin's Creed Origins.
Oui. Are the first. The first to see the gods. The first to tame their beasts. The first to guard the soul from evil. We conquered this land. And built an empire. But there are whispers on the wind. A brotherhood born in the shadows.
are the first to call themselves the Assassins.
On le sait, Assassin's Creed, c'est une série qui avait un certain nombre de problèmes ces dernières années. À force d'enchaîner les épisodes les uns à la suite des autres, ça donnait un peu n'importe quoi. Le point culminant, à mon avis, étant Assassin's Creed Unity et sa sortie un peu buggée, dirons-nous.
Un peu, oui.
Les finitions un peu à la pisse et surtout un jeu qui ressemblait à tous les autres sortis avant lui. Alors, je voudrais commencer par une simple question. Qu'est-ce qui a changé? Et est-ce que ces changements vous ont convaincu, Morren et ATH? Parce que c'est vous qui avez joué ici. Et Pixel et moi, on est très curieux.
Je pense que la première grosse chose qui a changé, c'est le système de combat. Pour le coup, c'est vraiment quelque chose que tu peux aborder toi, à mon avis, ATH, parce que y a clairement des inspirations de choses que tu connais. Mais s'il y a vraiment un problème fondamental avec la série Assassin's Creed, depuis très longtemps, c'est son système de combat.
Ah, la queue, le... Ah,
voilà, c'est
la
exactement
queue,
ça. C'est, donc, il y a une dizaine de personnages qui sont autour de vous et qui attendent tranquillement que vous ayez terminé avec Sbire 1 pour ensuite attaquer Sbire 2. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui change énormément dans Assassin's Creed Origins.
Non, mais ça, c'est le plus gros changement, quoi. Le système de combat a été vraiment amélioré par rapport à ce qui se faisait avant. Sauf que, comment dire, auparavant, en fait, on était censé quand même jouer un assassin discret. Donc, si tu veux, les mécaniques étaient plutôt tournées vers l'infiltration. Ouais. Les systèmes de combat, c'était vraiment quand t'étais repéré.
En gros, t'étais pas censé combattre, quoi, on va dire.
Voilà, c'était vraiment, enfin, en cas de dernier recours, si tu veux. Alors que là, je prenais plus plaisir, en fait, vraiment à foncer dans le tas, tu vois, même à ce que les mecs, ils me ramènent encore des soldats pour les buter par dizaines. Je leur demandais parce qu'en fait, le système de combat était intéressant. Avant, je jouais vraiment, si tu veux, plutôt à la manière d'un Metal Gear ou bien Hitman. J'essayais de pas me faire opérer, de tuer les mecs à la lame secrète, utiliser mes gadgets. Et là, le fait qu'on a beaucoup moins de gadgets, en fait, qu'auparavant pour infiltrer un fort, par exemple. Certes, auparavant, les intelligences artificielles dans les anciens Assassin's Creed n'étaient pas très développées. Mais là, si tu veux, j'ai l'impression que ça a stagné encore par rapport au début. Et alors qu'on est, on a toujours la même IA de 2007, sauf qu'on est en 2017.
Bah, en fait, j'ai l'impression, en t'écoutant, que... ils assument le côté action qu'ils n'assumaient pas avant. Parce que, est-ce que c'était pas ça, finalement, le problème des anciens assassins? C'est-à-dire que c'était pas comme un Thief, par exemple, tu sais, ou d'un Thief, tu sentais que le perso, il était pas fait pour combattre et tu te faisais punir direct par le jeu. Et ça, Ubisoft l'a jamais vraiment assumé, en fait. Et du coup, le jeu avait un côté action qui était bancal. Et est-ce que là, pour le coup, sur ce jeu-là, j'ai envie de dire, ils se sont pas dit, bon, écoute, Assassin's Creed, voilà, c'est de l'action, hein, on assume maintenant. Et finalement, voilà, on arrive au résultat que certes, les combats sont visiblement meilleurs, avec une inspiration Witcher-esque, hein, j'ai l'impression, soit dit en passant, et que, comme on peut bourriner comme un porc, la filtration, du coup, est-ce que t'as pas l'impression de perdre quelque chose du jeu en jouant exclusivement à l'infiltration, quoi?
Alors, bourriner comme un porc, non. Clairement, si tu fais que taper, ça marchera pas.
Ouais.
C'est plus basé à manière d'un Witcher ou bien même d'un Dark Souls sur le positionnement et de comment tu gères la menace adverse en face de toi. Donc il faut quand même, si tu veux, ne pas y aller comme un bourrin, surtout si les ennemis sont à un niveau plus puissant que toi, parce que ça, c'est quelque chose, genre le mec il a 3 niveaux plus que toi, il te met 2 coups, ouais, c'est fini. Et donc par rapport à ça, si tu veux, c'est quand même un RPG. Les mécaniques de RPG avaient déjà été introduites dans Unity par petites touches. Là, ils ont vraiment poussé le truc vraiment pour faire comme si tu étais dans un vrai RPG, donc avec des montées de niveau et qui ont une vraie influence sur la puissance de ton personnage et par rapport à ce qu'il peut faire.
Tu débloques des perks, j'imagine, ce genre de choses.
Ouais, voilà, la base du RPG, tu vois. Comment faire un action RPG? Le livre du petit débutant, bah t'as toutes les caractéristiques qui sont dans ce Assassin's Creed. Et moi, si tu veux, en fait, le système de combat qui est plus intéressant, bah ça me poussait plus à jouer action que infiltration. J'aimais tellement le système de combat qui a été amélioré par rapport à avant que bah ça me dérangeait pas en fait de foncer dans le tas, genre demander quoi.
Ouais, et puis ça aurait été dommage de te priver de tout un pan du gameplay qui avait l'air intéressant. Mais pour le coup, j'ai l'impression que t'es pas vraiment incité à t'infiltrer, quoi. Enfin,
Après, tu peux t'infiltrer parce que tu disposes quand même de certains gadgets. Donc, t'as, par exemple, l'arc court, l'arc de précision et tout ça. Et si tu veux, si tu fais le truc à l'arc, bah, tu peux te faire un fort sans te faire opérer. C'est tellement cheaté, tu tires de tellement loin. Comme ça, t'as des compétences qui améliorent ta précision, qui te permet même, avec un arc de précision, par exemple, de contrôler ta flèche. L'infiltration, elle est beaucoup plus facile parce que l'arc, il te permet d'être ultra cheaté, par exemple.
Oui, et puis, il y a d'autres choses comme le drone. Enfin, le drone. Excusez-moi. L'aigle. Mais c'est le drone de Ghost Recon, hein, soyons clairs. Qui fait que, enfin, tu sais où sont placés tous les gars, donc j'imagine que c'est beaucoup plus facile aussi. De s'infiltrer.
Ouais, mais tu vois, c'est pas un, non plus le ton aigle n'a pas des mitraillettes sur pattes, il peut pas s'amuser à tirer sur
oui,
le
oui, non, mais si tu veux, ce que je veux dire, c'est qu'en termes d'infiltration, quand tu sais à l'avance où sont placés tous les mecs grâce à ton drone, pour t'infiltrer, c'est quand même parce que en plus tu peux mettre un point sur le mec, donc tu sais à tout moment où il se trouve. C'est pas comme si une fois que tu enlevais l'aigle, tu savais pas où les mecs étaient, quoi. Tu sais exactement où ils sont à tout moment. Donc, en termes d'infiltration, si tu veux, c'est pas pareil qu'un jeu, par exemple, où imaginons, tu pourrais utiliser l'aigle, mais une fois que tu enlèves la vue de l'aigle, par exemple, certes, tu sais où les mecs étaient à un instant T, mais on enlève les points.
Oui, oui, mais après, enfin, par rapport à ça, c'est que, comment dire, l'aigle, il repère les ennemis, donc ça, quoi qu'il arrive, enfin, c'est comme les jeux d'aujourd'hui, comme dans Metal Gear, t'avais les jumelles, tu repérais les mecs, et puis, tu savais où ce qu'ils étaient. Oui. Mais l'aigle, ce qui est intéressant avec l'aigle, c'est qu'il permet d'avoir la typologie du lieu, quand même. Et de te faire, si tu veux, une carte, un peu en impression 3D, mais c'est clairement, l'infiltration pour les nuls, aussi.
Tu prépares ta route, quoi.
Voilà, tu prépares ta route, et puis si t'as pas envie de te faire chier à... Comment dire, si tu veux juste aller à l'objectif et te barrer, bah tu peux aller juste à l'objectif et te barrer, mais avec l'aigle, tu peux voir par exemple qu'il y a des gens en captivité, ou bien qu'il y a un trésor ici, ou bien qu'il y a une entrée secrète, et du coup, ça te permet de planifier entre guillemets tes approches, quoi.
Et puis du coup, ça permet aussi d'avoir un mélange... En fait, typiquement, moi, quand je m'attaque à un fort et à une infiltration, je commence par le gameplay infiltration. Au bout d'un moment, je me lasse... Et de toute façon, je sais que je vais finir par être repéré. Et du coup, ensuite, je passe sur de l'action. Mais si tu vas, genre, t'entres par la porte principale du fort, ça va être quand même assez compliqué de t'en sortir avec la mission.
Il faut quand même un minimum ça, réfléchir à ce que tu vas faire. Hein.
J'aime bien faire le mélange, en fait, tu vois. C'est ce que je faisais d'ailleurs en live. Je le disais d'ailleurs, au bout d'un moment, tu t'ennuies à faire que de l'infiltration comme ça, parce que forcément, t'as le bonus de savoir où tout le monde est. Et du coup, vu que l'IA est, bon, toujours aussi un peu débile quand même, on va pas se mentir, bah, t'as pas vraiment de challenge du « bon, bah, faut que je fasse attention à pas me faire repérer ». Parce que finalement, t'as souvent des gardes qui s'en vont tout seuls dans un coin, et à ce moment-là, là, t'es prêt à frapper, quoi. Et c'est une fois que t'arrives vraiment près de l'objectif que ça va être un petit peu plus compliqué de pas se faire repérer, et c'est là, en général, que tu passes en mode action, quoi.
Question, par contre, parce que vous parliez de système d'expérience, etc. Bon, de le RPG débutant pour les nuls, quoi. Oui. Est-ce que le fait de jouer en infiltration n'est pas pénalisant du point de vue de la distribution de l'XP? Je m'explique. Si je me contente de tuer ma cible. Silent Assassin, j'arrive, tac, je tue ma cible, je repars, point. Est-ce que du point de vue de l'XP, je suis pas pénalisé par rapport à quelqu'un qui va tuer tout le monde?
Pas spécialement, parce qu'au final, quand tu butes quelqu'un, tu prends très peu d'XP.
D'accord.
Quand tu termines une mission, t'en prends beaucoup. Donc ça contrebalance un petit peu. Et c'est pas vraiment un jeu où tu vas grinder en butant des gardes, en fait. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais eu ressenti le besoin de faire énormément de kills pour ensuite passer au niveau suivant, parce qu'au final, l'air de rien, avec toutes les quêtes secondaires, tu vas gagner quand même pas mal d'XP. Tu vas pas genre te dire, ah tiens, la zone prochaine, elle est niveau 40, moi je suis niveau 35, je vais faire tout ça en rasant tous les forts que je vais voir. Déjà, c'est pas très marrant. Et puis, heureusement, c'est pas encouragé, parce que la progression est quand même relativement bien échelonnée de ce point de vue-là.
Ouais, enfin à chaque fois tu gagnes 10 points d'expérience, si tu veux, c'est vraiment des petits bonus, quoi, c'est des cacahuètes.
C'est pour marquer la symbolique que ton perso fait quelque chose, donc il a progressé, mais
c'est ça.
C'est pas ça qui va vraiment te faire progresser dans le jeu.
Ouais, en fait, c'est vraiment comme la Dimandrine, c'est vraiment les quêtes qui te donnent les bonus, quoi, d'expérience. Ouais. Et puis des fois, si t'as des objectifs, par exemple délivrer les prisonniers ou bien récupérer les trésors du lieu, ça va donner quelques petits bonus d'expérience, par exemple 300 points d'XP en plus, mais si tu veux, ça va s'arrêter là, quoi.
Ouais,
c'est pas vraiment un jeu.
Je veux dire, c'est des objectifs qui n'entrent pas en contradiction avec l'aspect infiltration. Ouais. C'est ça qui est important. Il faut que les deux approches soient récompensées, en fait. Du coup, si tu fais une approche bourrin ou une approche infi, il faut que les deux, enfin, tu te sens pas pénalisé, quelle que soit la voie que tu choisisses. Très bien. Une question, par contre, bon, du coup, on a bien compris que la grosse innovation, c'est le système de progression, les combats. Par contre, il y a un aspect quand même des jeux Ubisoft à côté duquel on peut pas passer, c'est la structure Ubisoft.
Ouais.
Voilà, j'arrive dans une zone, je monte sur une tour, je débloque la zone, tatata, vision de l'aigle, machin. C'est toujours là, ça, comment ça se passe? Est-ce que c'est pas trop répétitif? Il y a aussi l'aspect remplissage des jeux Ubisoft. C'est-à-dire que t'as des fois l'impression d'être un peu dans un parc d'attractions, tellement c'est rempli de trucs à faire, et de trucs pas toujours très intéressants. Donc sur ces deux aspects-là, est-ce qu'il y a eu du mieux? Ouais. Est-ce que c'est pareil? Et comment ça se passe?
Moi, je dirais oui et non. Il y a deux choses. Sur l'aspect structure, on a souvent ce point de contention des tours Ubisoft, entre guillemets. Là-dessus, en fait, il y a effectivement toujours ces points hauts de synchronisation, mais tu n'en as pas vraiment besoin pour avancer. C'est-à-dire que tu entres dans une nouvelle zone, la map se débloque et tu vois la map. Si tu veux monter sur les points hauts, en fait, c'est des points de synchronisation qui vont augmenter la vision de ton drone, de ton aigle, en fait.
D'accord.
Donc c'est pas vraiment... Enfin, t'en auras besoin pour le 100%, mais ça, c'est pas clé à ton exploration des lieux, en fait.
Et surtout que même, enfin, je trouve que les... Parce qu'avant, c'était toujours dans des tours immenses et c'est tout vrai. Ça. C'était toujours long pour monter en haut de chaque tour. Là, je trouve que la plupart se montent assez rapidement. Là, il y en a encore plein.
Il y en a une cinquantaine, je crois.
Mais des fois, en fait, ça t'arrive juste que, par exemple, tu te balades de toi en toi et tu vois que le truc, il est à côté de toi. Et puis, bah, tu fais un petit détour sur ton trajet, tu fais la synchronisation, puis après, tu continues ton chemin, quoi.
D'accord.
Sur le remplissage, il y a effectivement beaucoup de choses. Après, il faut bien voir que la carte est immense. Et donc, il y a beaucoup de choses, mais dans l'immensité, en fait, tu sais, ça fait pas l'effet de la carte d'Assassin's Creed 2.
C'est où, pas un parc d'attractions, quoi.
Tu vois, ça fait pas vraiment, ouais. Et puis, il y a aussi le fait que c'est très très beau. Et de temps en temps, en fait, tu te balades et tu profites juste du paysage, quoi. Tu te dis pas, tiens, je vais là parce que c'est ma quête, parce que il y a telle quête secondaire, parce que je sais pas quoi. Et tu te dis, ah ouais, c'est quand même super cool. Et de temps en temps, ils ont aussi pris la... Alors c'est peut-être un petit peu déceptif, mais ils ont pris exemple sur Red Dead. De temps en temps, tu as des quêtes aléatoires qui pop. Le truc qui est un peu décevant, c'est qu'il y en a très peu et elles reviennent assez souvent.
Enfin, moi, je trouve que personnellement, elles sont mal faites parce que la plupart du temps, elles apparaissent, mais elles apparaissent à très loin en fait d'où tu es. C'est-à-dire, tu le vois avec Senou, donc c'est nous qui est l'aigle. Mais au début, enfin, moi, je pensais que quand je voyais ces petites alertes, c'était assez proche.
C'est ça.
Mais le mec, il est vachement loin et tout. Et je fais, vas-y, bah, fais-toi buter par les crocodiles parce que, enfin, t'es trop loin.
C'est vrai que c'est très décevant. Je pense que ça aurait mérité d'être beaucoup mieux implémenté, mais en fait, il y a de l'idée. Après, ça manque de variété, et puis ça manque, du coup, de véritables événements qui apparaissent proches de toi, quoi.
Surtout que même des fois, enfin, ce système est assez buggé. Par exemple, des fois, ça m'arrivait que j'étais dans un fort, je délivrais les prisonniers, mais le problème, c'est que le mec, je le délivre, et puis il est là, il se vénère sur moi, il veut me buter, quoi.
Ça m'est jamais arrivé, mais tu vois, par contre, moi, ça m'est arrivé de libérer quand j'étais en pleine infiltration, et du coup, il sonne l'alerte, parce que forcément, t'as 15 000 gars qui se barrent. Et du coup, bref, peu importe, on digresse.
Question, par rapport au remplissage, ici, il y avait une question implicite qui était l'écriture.
Ouais.
Bon, on sait que c'est un Assassin's Creed, enfin, moi, de ce que j'ai lu quand même, le héros est beaucoup mieux écrit que les anciens, apparemment. Bayek, à ne pas confondre avec Balek, n'est-ce pas? Est-ce que les quêtes secondaires sont bien écrites? Je m'attends pas, soyons clairs, à ce que ça soit du niveau de The Witcher 3, mais
non,
est-ce que quand même, il y a certains plaisirs à suivre les quêtes? Est-ce que les personnages sont intéressants, un minimum? Est-ce qu'il y a un fil rouge, quoi, quelque part?
Bah, il y a deux choses à ce sujet-là. Un, effectivement, c'est plein de petites historiettes, ces quêtes secondaires, qui ont effectivement un fil rouge, qui sont plutôt cool à suivre. Enfin, moi, je trouve qu'elles sont plutôt pas mal écrites. La deuxième chose, c'est la structure de ces quêtes secondaires. Et là, pour le coup, je trouve que c'est quand même un peu moins intéressant, puisque c'est souvent « rends-toi à un point A, fais quelque chose à un point A, ramène quelque chose à un point B ». Et en fait, le truc, c'est que là où on a gagné sur l'écriture de ces quêtes-là, on n'a pas gagné, en fait, en variété de structure. C'est que c'est souvent du FedEx, souvent on va me chercher quelque chose. Enfin, c'est pas exprimé comme ça, mais c'est comme ça que ça se fonctionne, en fait.
Et surtout que, en termes de mise en scène, c'est très pro.
Ouais.
les deux personnages sont face à face, mais ils sont là, ils se regardent dans le blanc des yeux, tu peux juste tourner la caméra, quoi. Enfin, tu vois, c'est pas, par exemple, comme on parlait de The Witcher, dans The Witcher, quand tu faisais une quête secondaire, les personnages se déplaçaient, s'asseyaient, enfin...
Ouais. Il y avait des mimiques, des tics de langage, ou des trucs comme ça...
En fait, là, on est plus sur le dialogue à la Skyrim, quoi. Tu vois,
mais c'est d'ailleurs, les doublages sont réussis ou pas, selon vous? D'une manière générale, la bande-son, ça vous a convaincu ou...
Moi, j'ai personnellement joué en VF, la VF qui est plutôt bonne.
Moi, en fait, au début, j'ai commencé à jouer en jeu en VO. J'ai téléchargé la VF et j'ai fait, non, je retourne en VO, en fait. Mm. Les personnages principaux de la VF sont bons, mais c'est tout ce qui est personnages secondaires et tout ça. Enfin, en VF, c'est pas possible. C'est toujours le même doubleur qui revient pour les PNJ. Et puis même, enfin, l'intonation et tout ça, j'ai l'impression que, tu vois, le mec, c'est même pas qu'il a lu son texte. Mm. Il a récité un truc comme ça et puis il s'est barré.
Bah, souvent, on rappelle que, en plus, on leur donne ces textes-là hors contexte. Donc, forcément, ouais. Voilà, quoi.
Moi, ça m'a pas choqué, mais j'ai joué beaucoup moins longtemps que toi. Hein.
Mais après, c'est vrai que, enfin, Bayek, je trouve que sa VO est beaucoup plus dans l'esprit guerrier que sa version française. Ouais. La version française, j'ai l'impression que c'est un boy scout qui veut faire le bien, alors qu'en VF, quand même, il a une voix un peu plus rauque, un peu plus...
En VO, tu veux dire?
Ouais, excuse-moi. En VO, il fait un peu plus penser à un spartiate égyptien que le gentil commerçant du coin qui va venir t'aider, quoi.
Mais au-delà des doublages, je voudrais vraiment tirer un coup de chapeau sur la bande-son, parce que ça soit la bande originale, avec les musiques de combat et tout, qui sont vraiment cool, mais la bande-son, c'est-à-dire que quand on entre quelque part, avec forcément le son des pas de ton cheval, l'espèce de brouhaha dans lequel tu entres, les gens qui parlent, qui réagissent à ce que tu fais, enfin, c'est vraiment, vraiment cool, et puis même quand t'es genre à l'extérieur d'une ville, t'as le côté faune et flore qui se met en branle, enfin, c'est vraiment intéressant.
Est-ce que tu dirais que c'est un jeu où, genre, si tu coupes la musique, t'as quand même une ambiance qui se dégage, quoi? Parce que moi, souvent, c'est un test que je fais, si tu veux. Pour voir si la bande-son est réussie en dehors des musiques, je baisse le volume de la musique avant et je laisse les bruitages pour voir ce que ça donne.
Alors, moi, je te réponds tout de suite, c'est oui.
Ah ouais.
D'ailleurs, tu as une option pour mettre la musique si elle apparaît fréquemment, de manière normale ou de manière très élevée. Mm-hmm. Et moi, j'ai mis de manière, tu sais, pas beaucoup, juste pour pouvoir profiter justement de ces petits passages de vie tous les jours. Et puis au final... Quand tu te balades dans les villes et tout ça, tu vois les gens qui sont en train de faire le marché, ils sont en train de discuter entre eux. Il y a vraiment une vie qui se dégage, qui a été bien faite par rapport à ça, mis à part le comportement des PNJ qui était fois un petit peu buggé. Mais si tu veux, t'as vraiment l'impression d'avoir une vie. Et il y a quelque chose quand même d'assez cool dans cet assassin, c'est que même que ce soit en VF ou en VO, ils ont quand même gardé des mots égyptiens pour faire
couleur locale,
pour faire un peu des paysans. Ouais. Les PNJ quand ils parlent entre eux. Si c'est pas quelque chose d'important, bah il va parler en égyptien et du coup je trouve que ça fait quand même des paysans.
Il y a des mots grecs par moment, il me semble aussi. Il y a vraiment eu du taf là-dessus. D'ailleurs, on va pas se le cacher, messieurs, c'est important de rendre l'ambiance de cette époque un peu comme Assassin's Creed Black Flag, on y jouait parce que pirate. Hein.
C'est vrai.
C'est la même équipe en fait.
Je pense que l'une des raisons qui vous a poussé à vous y mettre à celui-là, c'est l'Égypte. Est-ce que aussi, voilà, d'un point de vue visuel, d'un point de vue, ce qui se passe à l'écran, est-ce que vous y êtes en Égypte?
Ah ouais, métier, clairement. C'est le jeu, en fait, qui m'a fait changer de carte graphique, parce que j'y jouais en moyen, et j'en profitais pas assez à mon goût, et genre, et vraiment...
Non, mais c'était déjà pas mal, hein, je tiens à le dire quand
c'était
même.
Déjà pas mal, mais en fait, le truc, c'est que tu sais... que ça fourmille de détails et tu veux les voir tous ces détails-là. Juste pour vous donner une idée, genre, tu passes à côté d'un lac, dans ce lac, il y a des flamants roses, tu passes à côté en galopant, les flamants roses s'envolent.
Screenshot, clac.
Oui, mais c'est ça. Et en fait, moi, Assassin's Creed, j'avais dit au revoir à la série avec Unity, auquel j'avais joué 1h30 et c'était tellement buggé au moment de la sortie que j'ai arrêté et que j'ai plus voulu entendre parler d'Assassin's Creed jusqu'à ce que Assassin's Creed Origins sorte et que les reviews soient très bonnes. Et si ça avait été mauvais, l'Égypte, ça m'aurait pas fait aller vers Assassin's Creed Origins. Et là, en fait, je trouve que j'y suis, quoi. On est vraiment dans le truc. C'est varié, l'air de rien, en termes de décor. Parce que forcément, quand tu penses Égypte, tu dis désert, pyramide, machin. Mais t'as beaucoup plus de variété que ça. Je prends un pied fou à me déplacer dans les zones rurales, en fait, d'Égypte. Et pas forcément dans les villes, tu vois. Je m'éclate beaucoup plus en dehors des villes qu'à l'intérieur, ce qui était pas forcément le cas. Parce que l'air de rien, Unity et Syndicate, c'était très très urbain, et on avait oublié que ça pouvait aussi être autre chose un Assassin's Creed, et pour le coup, c'est très très bien fait.
Je suis complètement d'accord avec toi, parce que moi, mes parties que je préférais le plus, c'était d'être perdu dans le désert, en fait. C'est magnifique, quoi, quand tu te perds dedans, puis t'as des tempêtes de sable qui apparaissent, t'as des mirages.
C'est tellement bien fait, putain.
Ouais, et puis le défaut qu'on citait où la carte faisait remplissage à certains moments, par exemple, dans tout ce qui avait des lieux d'intérêt dans les villes et tout ça, ils sont pas partis dans le vice de te mettre des trucs dans le désert. Parce que c'est justifié, si tu veux, par la typologie du lieu. Enfin, ils auraient pu te mettre des coffres à la con, ou bien, tu sais, juste pour faire remplir la carte. Là, ils sont pas partis dans cet excès-là, quand même. Les tombeaux des pyramides, il se passe pas grand-chose, en fait, dedans. C'est juste, enfin, tu avances, y a pas d'ennemis.
C'est le plaisir de la découverte.
Voilà, t'as vraiment l'impression d'être Indiana Jones, en fait, et de découvrir quelque chose. Des fois, il y a des petits textes qui te racontent une histoire. C'est vraiment le plaisir de... Parce que moi, je suis jamais allé en Égypte, mais découvrir les monuments historiques de l'époque qui sont peut-être pas à taille réelle, mais qui te donnent vraiment l'impression d'être minuscule.
C'est vrai.
J'aimerais bien y aller un jour, visiter les pyramides. Et puis là, je me dis que c'est quand même un rêve de gosse.
Il faut bien voir aussi que tout ça, c'est sans temps de chargement. C'est-à-dire qu'une fois le temps de chargement premier écoulé, t'as accès à toute la map, que ça soit dans sa dimension terrestre, comme souterraine ou sur l'eau ou sous l'eau, sans temps de chargement. C'est assez bluffant, quoi.
Pour conclure, messieurs, bon déjà, je voulais vous demander une question essentielle. Est-ce que vous trouvez que le jeu est bien fini? Parce qu'on sait que ça n'a pas toujours été le cas sur les gros épisodes d'Assassin's Creed, on va dire. Sur les épisodes 1.5, en général, c'est bien foutu, mais là, quand même, bon, on sait que celui-là, il a été retardé. Ils ont pris leur temps, donc on s'attend quand même à un minimum de finition. Bon, j'ai bien entendu que tout à l'heure, il y avait des petits bugs par-ci, par-là. Enfin, en tout cas, il y avait des réactions bizarres parfois des PNJ.
Ouais, ça, c'est
bon,
des bugs
après,
bien,
ça
quoi.
Peut arriver, on va dire. Est-ce que, par contre, d'un point de vue finition, d'une manière générale, c'est bien foutu? Et surtout, bon, je me doute de la réponse, vu tout ce que vous avez dit jusqu'à maintenant, mais... Est-ce que cet Assassin's Creed vous a convaincu? Est-ce que l'attente valait le coup?
Vas-y, ATH.
Alors, moi, je dirais que niveau finition, j'ai rien à redire, mis à part enfin les petites broutilles qu'on peut avoir à chaque fois. Mais bon, ça, c'est dans tous les jeux. Enfin, regardez tous les speedruns des jeux qu'on croyait qui étaient pas buggés. Finalement, bah, il y a quand même des bugs, quoi qu'il arrive. Cet assassin, moi, j'ai très bien aimé. Par contre, je sais pas si je reprendrai une deuxième fournée, si c'est dans un lieu qui m'intéresse moins. Parce que là, c'était vraiment parce qu'il y avait le cadre égyptien. Je trouve que Ubisoft s'est quand même beaucoup remis en question par rapport à ce qu'ils avaient fait dans la série. Ils tournaient vraiment en rond depuis pas mal de temps. Là, ils ont dit, bon, on pose nos coronets sur la table et puis on y va. Et ils ont quand même pas mal géré le truc. Il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport à Assassin. On reste quand même dans des trucs assez similaires. Mais vraiment, moi, je trouve qu'ils ont pris le bon chemin. Mais si ils nous ressortent un Assassin's Creed Origin 2 l'année prochaine, avec autant de contenu, etc. Moi, je pense que là, j'ai pris ma dose et les prochains, je les prendrai pas. Mis à part, vraiment, si c'est quelque chose qui me plaît visuellement, peut-être que j'y retournerai parce que là, c'est vraiment ça qui m'a fait craquer.
Hashtag le Japon.
Ouais, le Japon ou puis même, enfin, tu vois, c'est tout ce qui serait Sparte ou bien tout ça, mythologie grecque. Enfin, moi, ça m'intéresserait beaucoup, quoi.
Moi, je pense que effectivement, il y a eu un bénéfice à l'attente, c'est-à-dire qu'on l'a attendu quand même, l'air de rien, cet Assassin's Creed, surtout. Moi, du coup, qui ai attendu quasiment 5 ans, puisque Unity, j'ai fait l'impasse, Syndicate aussi, du coup, il s'est passé 3 ans en plus. Là où il va falloir faire attention, c'est qu'il faut pas qu'ils relancent leur licence en annuel. Parce qu'en fait, le seul truc qui change énormément, c'est le système de combat, mais tout le reste, c'est juste la même chose, mais en mieux. Je pense qu'il faut qu'ils fassent gaffe à garder justement ce côté un petit peu événementiel d'une sortie d'Assassin's Creed, qu'ils prennent le temps et que ça soit toujours polish aussi bien qu'Origins. S'ils reviennent à leur travers d'avant, ce qui a priori est pas trop le cas, ça va poser problème encore une fois. Là, ils ont réussi un coup de force, c'est déjà de me réintéresser à Assassin's Creed. Faut pas qu'ils gâchent le tout en se disant « on a fait ce qu'il fallait, on recommence ».
Enfin, surtout, je pense qu'il aurait intérêt à avoir des quêtes secondaires plus intéressantes, quitte à en mettre moins, parce que au bout d'un moment, c'est vrai que le jeu, il devient quand même pas mal répétitif. Donc moi, je l'ai fait, mais je l'ai pas bouffé d'une traite. Enfin, je l'ai fait sur plusieurs semaines. Sinon, au bout d'un moment, tu fais une overdose, quoi. Mais vraiment, s'ils font moins de contenu, mais plus intéressant, du contenu vraiment de qualité, parce que là, vraiment, la map, mais l'Égypte, elle est immense, mais ils ont bourré le truc partout. Et là, ce qu'on a pas dit, c'est que dans le jeu, Bayek, c'est un Magi, et en tant que Magi, si tu veux, c'est un peu le shérif de l'époque. Et là, tu te balades dans la ville et puis tu dis ah tiens Medjay, bah vas-y viens, mon frère s'est fait kidnapper, et donc t'as l'impression de, tu vois, d'être
un
peu
le bon service, quoi, comme d'habitude.
Si t'étais pas là, le mec il t'attendrait, quoi. Tu peux venir dans 15 ans. Ok, tu vois, enfin ça c'est un petit peu dommage, et du coup ça fait encore mécanique de jeu vidéo, t'es pas dans une immersion totale, quoi, quand t'as des trucs comme ça.
Dernier point, petite question annexe. Les microtransactions, c'est intrusif, pas intrusif, vous en avez pensé quoi? Vous les avez pas remarqués?
En vérité, moi, je les ai pas vraiment remarqués. Il y a jamais vraiment de moment où le jeu s'arrête pour te dire « Eh, tiens, c'est une microtransaction. » En fait, je m'en suis rendu compte parce que je me suis trompé de gâchette dans le menu. Au lieu d'aller à gauche, je suis allé à droite. Et à droite, c'est la boutique. Mais en vrai, t'en as absolument pas besoin. Tu sais, c'est des time savers, mais en vrai, je sais pas qui a besoin de ça. Surtout pour profiter d'un jeu comme celui-ci, où justement, t'es là pour prendre ton temps, pour profiter, pour voir tout ce qui se passe, ça sert à rien, en fait. Donc, non, moi, aucun problème. J'ai pas eu de souci avec les microtransactions, et si je m'étais pas trompé, je les aurais... Enfin, j'aurais pas remarqué qu'il y en avait.
Ouais, t'as pas le sentiment qu'on t'a retiré des trucs pour te les vendre à côté
Bah, par contre, si, j'ai regardé quelquefois quelques armes et tout, et genre, il y a des armes exclusives qui sont vendues, mais qui sont vraiment très belles, mais bon, c'est pas pour ça que j'irai payer, puis si tu veux...
Ouais, c'est les défauts habituels des jeux Ubisoft, quoi, c'est des trucs qu'on t'a fait, ah tiens, alors le DLC Micromania, le DLC machin, le DLC bidule...
C'est tout à fait ça, ça va être des montures exclusives, tu vois, genre
ouais, voilà.
Une licorne ou je ne sais quoi, enfin bref, c'est débile, quoi.
C'est comme, il y avait un événement que je suis tombé dessus par hasard, c'était un événement en fait, un partenariat avec Final Fantasy XV.
Ah oui.
Et au bout d'un moment, si tu veux, bah dans le jeu, tu peux avoir un chocobo et d'autres armes.
C'est un gros malheur chocobo, je crois. C'est pas ça.
Non, c'est vraiment un chocobo, mais sauf qu'il a un design particulier par rapport à ce qu'on a dans les Final Fantasy.
C'est un oiseau légendaire d'Égypte.
Je suis monté dessus, j'ai regardé, j'ai fait ouais, ça fait pas stylé, même si c'est moi le seul mec dans tout le jeu, parce que toi, enfin, tout le monde se bat sur des chevaux et puis sur des
chameaux. C'est contre immersif.
Ouais, voilà. Et puis j'ai testé ces trucs vite fait, j'ai fait genre un aller-retour comme ça sur le chemin. Après, j'ai fait, ouais, en fait, non. J'ai pris mon cheval classique, et puis voilà.
Hein, oh mon dieu! Oh mon dieu, Mandrin vient d'envoyer un screenshot. Oh, cette immondice, putain! En fait, c'est un croisement entre un chocobo et un dromadaire. C'est très particulier.
C'est vraiment ça.
On dirait un mutant, tu sais, t'es.
Ouais, et puis, enfin, même, tu te sens pas vraiment dans le jeu, quoi. C'est comme, lors de cet événement-là, tu récupères l'arme de Noctis, de Final Fantasy XV. Final Fantasy XV, il a une arme qui apparaît comme ça dans ses mains.
Ouais, non.
Voilà, je trouve que ça dénote par rapport à Assassin's Creed, quoi.
Ok. Bon, messieurs, alors, en tout cas, on aura compris que le jeu vous a bien plu.
J'ai quand même un petit mot à dire sur la méta-histoire, quand même.
Non, mais ATH, on sait bien qu'il n'y a plus de méta-histoire, c'est bon.
Bah si, en fait, ils ont essayé quand même d'introduire dans celui-ci des éléments dans le présent. Je trouve qu'ils sont pas très intéressants. Oui. Alors qu'ils auraient pu faire quelque chose d'intéressant avec le personnage, qui est un personnage féminin en plus. Ubisoft, depuis, a appris à faire des personnages féminins modélisés qu'on peut juste contrôler.
C'est vrai.
Mais tu vois, enfin, je trouve qu'ils auraient pu faire des trucs intéressants, mais mis à part lire des mails et puis appuyer sur un bouton. Enfin,
c'est... Ouais, c'est toujours aussi passionnant, les phases dans le présent, j'ai l'impression.
Je comprends pas pourquoi ils insistent avec ça, en vrai.
Mais il y avait quand même un passage qui était assez bien intéressant dans le jeu, qui aurait pu donner quelque chose de plus poussé, notamment concernant ce personnage féminin-là. Sauf que j'ai l'impression que c'est un truc qui se passe, alors que c'est un truc quand même assez grave. Puis après, il retourne à ses activités normales, mais je peux pas en parler pour spoiler, mais c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Et moi, les phases, par contre, que j'ai aimées sur la méta-histoire, c'est ce qui concerne Bayek. En fait, Bayek peut accéder à des tombeaux, et là, ça te raconte des choses quand même assez intéressantes, malheureusement, c'est que sur des, entre guillemets, des yeux de géologue. Et ça, c'est le côté maladroit du truc, quoi. Alors que c'était des trucs vachement intéressants qui auraient pu être mis en scène, je sais pas, moi, de manière différente. Surtout que des fois, il y a des trucs qui s'adressent vraiment aux joueurs. Et c'est un petit peu dommage que par rapport à ça, on dirait que là, ils essaient de la faire revenir à la surface, mais ils savent pas comment s'y prendre.
Moi, je pense qu'ils feraient mieux de la laisser tomber, mais bon, moi, je pense honnêtement qu'ils savent pas du tout où ils vont avec ce truc, hein, mais voilà. Bon, messieurs, on va s'arrêter là pour cette semaine.
Ouais.
Ouais.
Une dernière précision avant de partir. Il se trouve que en ce moment, là, vous écoutez ce podcast qui sera diffusé donc mercredi, il y a LoveAwesomeGames.Quick. Donc LoveAwesome Games Done Quick, je le rappelle, c'est un marathon de speedrun caritatif pour la lutte contre le cancer. On avait déjà fait une news dessus, donc normalement, si vous êtes attentif, ou alors si vous suivez notre compte Twitter où je vais faire un retweet pour le lancement de l'événement, vous êtes déjà dessus. Mais pour ceux qui l'auraient raté, donc, et qui écouteraient ce podcast mercredi, il reste jusqu'à dimanche pour regarder les runs restantes. Et il y en a beaucoup, hein, c'est H24. Donc allez-y, c'est génial, c'est du speedrun, faites-vous plaisir. Allez, ciao tout le monde.
Salut à tous.
Ciao.
Et arrêtez de boire des mojitos.